On a du temps parce que si le crâne était fermé, il serait pas fini à la, on n'arriverait pas à l'âge adulte. Donc on a du temps. Mais c'est évident qu'au plus on est loin de la naissance, d'abord il ne faut pas faire 36 000 séances, ça ne sert à rien puisque le grand crâne grandit moins vite. Le tout, c'est que la personne qui travaille sache. Ça ne sert à rien de voir un enfant à un an tous les 15 jours. Parce que il va prendre 3 cm dans la deuxième année. Donc, une fois qu'on a fait notre travail, le crâne, il doit continuer à croître. Sauf si nous, on trouve qu'il y a une ou deux sutures qui ne viennent pas. Ça, les gens qui savent faire, mais sinon, on a du temps. Mais au plus, on intervient tôt, avec des gens compétents, parce que pas tout le monde sait faire de l'enfant, ou même de la femme enceinte. C'est quand même... on commence, nous aussi, à se spécialiser. Mais je crois que je ne voudrais pas trop qu'on parte sur l'ostéopathie, même si je voulais montrer des cas cliniques à la fin. Ce n'est pas le but trop de la journée. Quoi, hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Bernard, mais...
Non, je ne sais pas, de parler d'ostéopathie, c'est de voir l'accouchement à la place du fœtus. Parce que c'est vrai que la tendance traditionnelle d'apprendre la mécanique obstétricale, même ancienne, c'est qu'il y a un schéma, il y a une boîte, il y a un passage... Il y a quelque chose, le fœtus qui passe, mais il passe comme la pâte dentifrice.
Voilà, oui.
Peu importe les conséquences. Et de s'apercevoir, comme vous l'avez fait, qu'il y a des contraintes importantes, il y a beaucoup plus de contraintes dans certaines conditions que dans d'autres, ça remet une respectabilité sur le bébé qui doit être manipulé avec une grande précaution et que si on peut faire tourner, bouger la mère autour, c'est mieux que de faire des manœuvres.
Ça, je...
Moi, je vous donne une expérience de l'obstétricien. Faire des manœuvres, c'est plus écrit dans les livres, des rotations au doigt ou machin au truc. Il a toujours paru un truc curieux, pour ne pas bien faire faire, que je n'ai jamais su faire, que je n'ai jamais osé faire. Je ne sais pas si c'est un type de psychanalyste. Sauf à me faire mal au doigt et être très peu efficace. Mais j'en suis arrivé qu'on laissait tomber parce que ça se passerait bien, ça se passerait pas, et puis c'est tout. Enfin, on sortirait comme je voulais bien sortir. Après, c'est vrai que tout ça, c'était un peu dans mon sens. C'est que plutôt que de faire des contraintes sur le bébé, on peut jouer beaucoup sur la position de la maman. Les différences de mesures que Bernadette vous a dit, c'est considérable. Je vais juste vous donner un exemple, puisqu'on fait beaucoup d'accouchement comme ça dans le service maintenant. On a pris tous les obstétriciens que nous sommes, les mêmes règles pour appliquer cette mécanique obstétricale, on va dire nouvelle, aux extractions instrumentales qui nous restent quand même à faire parfois. Je peux vous dire que tourner les genoux, les rapprocher et les mettre dans une position qui est plus propice, ça rend des forceps ou des extractions instrumentales difficiles en extraction facile. D'abord, tout d'un coup, vous imaginez 15 mm de plus entre le disque sciatique, vous passez facilement les cuillères. Alors qu'avant, c'est un peu difficile. Et c'est des trucs que vous apprenez facilement parce qu'on n'a pas besoin d'en faire beaucoup comme ça. Vous faites ça deux fois, vous avez compris pour toujours. Et c'est là qu'il y a aussi des déclics professionnels qui sont importants. C'est que se donner la peine de se bouger un jour et en trouver un grand bénéfice au niveau de la simplification des naissances, des accouchements, c'est gagné pour toujours. Alors actuellement, on s'interroge dans nos têtes, pour se demander pourquoi, même si ça va un peu vite du côté médiatique, ça ne va pas si vite que ça du côté professionnel. Ce qu'on ne fait pas, c'est que changer les habitudes, c'est comme changer la culture. Il faut des générations, des générations, au moins deux. Donc, quand on est des pionniers, peut-être que les générations qu'on forme maintenant, ils commencent à être plus ouverts sur les conditions, et ainsi de suite. Ce qu'on voit dans d'autres pays d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut vraiment prendre en considération qu'il faut quand même être un peu délicat sur le bébé et qu'il y a plein de trucs à faire autour du bébé, c'est-à-dire avec la maman et sa condition sur le bassin, pour aider les naissances et simplifier les accouchements. Alors, en plus, c'est bien dit, en plus, il y a des avantages sur le corps de la mère.
Oui, les deux. Hein.
J'ai constaté effectivement que ça changeait pas mal les données. Et surtout quand elles ont un drap comme ça, qui est fixé au dossier et qu'elles tirent au lieu de attraper les poignets et pousser. Moi, ma question, c'est par rapport à la symétrie du bassin, quand l'engagement est difficile, surtout sur un dos à droite. Enfin, est-ce qu'il faut vraiment la faire tourner à droite pour qu'il s'engage quand il est à droite, et la faire tourner à gauche, c'est ce qu'on a toujours appris, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Moi, j'essaye tout, donc j'ai fait tourner dans un sens, dans un autre. Mais par rapport à l'étrier, enfin, la jambe qui est fléchie sur l'étrier alors que l'autre est plutôt allongée, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il faut essayer les deux côtés? Ou est-ce qu'il est préférable d'essayer la jambe droite pliée quand le dos est à droite, etc.
Bon, a priori, c'est la dame qui sait de quel côté elle veut se coucher. Si elle ne le sait pas ce jour-là, parce qu'elle est un peu perdue ce jour-là, ou qu'elle a une péridurale qui masque un peu ses sensations, vous lui demandez comment elle se couchait la veille. Si elle se couche toujours du même côté, il n'y a pas de doute. Si elle vous dit, bon, c'est indifférent, n'est pas très avancé. Donc, vous essayez d'abord, peut-être, le côté couché sur le côté du dos du bébé, parce que la trajectoire est quand même plus simple que comme ça, a priori. Et puis, si ça ne va pas, il faut changer. Et si elle n'est pas bien, il faut changer. Mais c'est vrai qu'au départ, on n'a pas une recette absolument fixée. Puis on est en pleine évaluation de ça, de ces choses-là, quoi, hein. Et de temps en temps, il va mieux de l'autre côté. Donc il faut pas. Et une posture qui marche, elle marche tout de suite. Si ça ne marche pas, ce n'est pas peine de s'entêter. Si vous fonctionnez comme ça, je pense que vous êtes au plus près.
Si la posture a marché, il faut la réexaminer.
Non, ça fait gloups. Ah, il franchit un cap. Hein. Il franchit vraiment un cap.
Mais ça, c'est à dilatation complète. Si on n'est pas à dilatation complète et qu'on. Voilà aussi le problème, parce que parfois, il y a des anomalies de rythme qui font que. Quand le col est bien souple, on voudrait qu'il se dilate franchement de cette complète, on va dire, et que tout se passe en même temps. Pour une petite part, ça peut arriver. J'ai récupéré la patiente à 7 cm.
Oui, et elle avec était sous perfusion sato et rupture de la poche des membres.
Elle avait rompu spontanément et ma collègue avait mis 20 cc.
Pourquoi on a du sarto là?
Non, mais il y était.
Parce qu'il y avait une stagnation, la dilatation.
Non, mais parce que vous soulignez, j'ai récupéré la patiente à 7.
C'était une autre sage-femme
avant. Je suis arrivée.
Ah, d'accord.
Je suis arrivée à 8h30.
Donc, elle a récupéré la patiente comme avant. Comme la collègue avait en.
Et donc, ma collègue l'avait mise en position demi-assise. Donc, moi, j'ai essayé de la mettre en avant avec donc les mains sur les étriers pour qu'elle bascule son bassin. Il y a eu de plus d'anomalies de rythme, donc j'ai essayé de la mettre en décubitus latéral gauche, puis en décubitus latéral droit, et c'était une droite postérieure. Et finalement, elle a accouché en une heure et demie. Quoi. Mais son col.
Son modification, en quelle position?
J'ai tout essayé, mais par la suite, il a fait que je m'installe parce que ça les anomalies persistaient.
Pas de règles. Ouais.
C'est ça qui est embêtant.
Il faut chercher la seule règle à retenir, c'est chercher avec. Il faut chercher avec la maman et avec le bébé. C'est lui qui va. La position de la femme. Tu peux pas dire en position avec un dos à droite, c'est cette position-là qui est. Tu cherches avec le bébé. Quand tu as des modifications du rythme, tu arrêtes la perfusion de sa
femme. Non, mais je l'ai fait. Vraiment.
Ah, bon.
C'est ce que j'ai fait en premier. Je suis arrivée. Et par la suite, son collègue est mou. Heureusement que son collègue est mou, parce que la tête a pu s'engager et faire passer le col. Mais voilà, j'étais quand même un petit peu ennuyée. Et je lui ai
Non, non, mais on a, c'est obstétrique, ça.
Et voilà, je me posais la question, est-ce que,
comme
j'ai pas beaucoup de temps devant moi, étant donné qu'il y a des anatomies de rythme, est-ce que j'ai plutôt intérêt à commencer par une position du côté du dos du bébé, ou est-ce que je peux essayer le côté, parce que la patiente, elle était passive, elle, quand je lui ai demandé, justement, bon, je lui ai proposé, on va s'installer comme ça, etc., ah bah oui, tout de suite, enfin bon, elle adhérait à tout ce que je...
Fanny peut
arriver,
j'ai pas changé.
Chercher avec la mère et le bébé la position dans laquelle tout va aller.
Parce que vous dites, la maman, elle connaît instinctivement, en fait, pas mal de positions.
Mais
parfois, quand même, la maman collée ou rêve des positions. Juste pour l'anecdote, il y a une thèse qui a été faite sur l'accouchement sur le côté à Lille. Et là, l'obstétricienne qui faisait sa thèse là-dessus attendait son quatrième enfant. On a fait une centaine d'accouchements dans cette maternité sur le côté pour bien poser les hypothèses d'abord. Elle était emballée, elle voulait accoucher sur le côté. Elle était enceinte pendant sa thèse. Et vraiment, c'était son truc, quoi. Elle n'a jamais pu. Chaque fois qu'elle s'est mise sur un côté, sur l'autre côté, le gamin n'allait pas bien. Et ça a fini sur le dos. Eh bien, c'est très bien, quelque part. Non, mais je veux dire, parce que ça n'est pas un truc qu'on peut décider d'avance.
Surtout pas.
C'est pas forcément la panacée, c'est une solution.
Le rythme...
Ah oui, non, mais même en agence, un tour, c'est quand il s'est engagé, ça s'est encore dégradé. Et il y a une circulaire très serrée.
Ça,
c'est le fameux diagnostic
rétrospectif. Mais... Ouais. C'est pour ça, oui. C'est pour ça, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'en Angleterre, le National Childbirth Trust a édité depuis longtemps ces posters que vous voyez ici, qu'on a traduits en français, qui sont affichés en fait dans les maternités. Qui sont pas bien sûr des édictions de normes nouvelles aussi, c'est pas des choses normatives, mais simplement pour donner des idées aux futures mères que bah, y a pas que la position gynécologique, donc y a d'autres positions, qu'il y a des changements de position, donc tout le discours en fait de Bernadette de Gasquet, vous allez le retrouver là-dedans, mais dans des termes accessibles, disons, à tout le monde en fait. Voilà, aussi bien professionnel qu'aux parents, et puis on retrouve le discours quand même sur la dissymétrie, la mobilité, enfin plein de choses. Et ça quand même, ça contribue à changer les mentalités. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'en Angleterre, aujourd'hui, on accouche toujours dans la position qu'on veut, non. Les activistes en Angleterre se plaignent qu'on continue à allonger les femmes sur le dos, mais il y a quand même un changement de mentalité, c'est-à-dire que quand une femme arrive dans une maternité et dit « Moi, je ne veux pas accoucher sur la table gynécologique et dessous », on lui laisse quand même cette liberté de choix. Et puis, bon, ben, ils sont plus ouverts déjà à ces variantes. En Suède, c'est un peu plus systématique parce que dans la préparation, déjà, dès le départ, on leur dit « Vous avez la liberté de position ». En fait, c'est beaucoup plus implanté en Suède, quand même, cette question de liberté. Mais c'est pareil, c'est comme on disait, bon, on ne peut pas faire quelque chose de normatif en disant sur le côté où tout le monde à quatre pattes, tout le monde sur le siège d'accouchement, etc. Voilà. Voilà, oui.
Tout ce que je vous ai montré, pratiquement sur la table, peut se faire avec une péri.
Classique, oui.
Il ne faut pas oublier que l'évolution de la péridurale a considérablement changé si les gens sont consciencieux. Les doses de produits se sont divisées par 10 en 15 ans. Avec l'objectif, il faut avoir une certaine analgésie, mais il faut garder une sensation douloureuse pour avoir une efficacité, un accompagnement et des réflexes. Alors même dans des équipes qui sont un peu branchées là-dessus, vous avez de temps en temps des variations qui font que la péridurale est plus plombée qu'on l'aimerait, mais il y a aussi qui sont des variations anatomiques et physiologiques qui leur échappent. Il y a quand même une tendance à vouloir faire en sorte qu'il y ait simplement un écrêtage de la sensation douloureuse pour qu'il garde, que la patiente garde un vécu. Ça se rapproche encore en dose et en quantité des péridurales déambulatoires qui étaient des techniques permettant de dire qu'on pouvait faire des trucs sans avoir mal, tout en ayant ses réflexes, sa la tonicité musculaire et tout, et c'est le petit âge. Alors, par moment, vous avez des pratiques comme ça, la relative liberté de la patiente, elle est beaucoup plus facile parce qu'elle suit aussi un ressenti et pas simplement des ordres qui tombent du ciel et qui lui font mettre un dogme pour un autre. Et c'est, là encore, c'est un ensemble. Il faut que tout le monde cogite sur être efficace sans être sans bloquer, sans être dirigiste. Après, il y a une mayonnaise intellectuelle qui se met en route et les gens vont dans le même sens. Mais au départ, effectivement, il faut que tout ça diffuse et les idées. On est dans un pays qui a une culture médicale, je vous le disais un peu tout à l'heure, très sécuritaire, très technique, très médico-légale d'enfer, ce qui nous distingue d'autres pays européens. Donc, à un moment, pour se bouger, il faut aller. Beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'arguments pour démontrer aux autres professionnels qu'on peut un peu reculer, qu'on peut un peu lâcher, ce qui n'empêche pas de nous voir. Quand on voit, on peut se décider quand il y a un vrai problème. Donc il y a un aspect très très éducatif dans l'affaire. Mais au niveau des péridurales, actuelles qui devraient être modérées permettent facilement toutes ces déambulations. Alors on a un peu diminué le taux de péridurales dans le service, mais sensiblement pas, mais on essaye de démontrer qu'on a raccourci la durée des péridurales pour les adapter à la demande. Et ça, c'est probable. Mettez-vous dans la position qui vous plaît pour répondre à la question de on n'avance pas par rapport au côté, c'est mettez-vous sur le côté, dit la sage-femme, et on se met dans la position que la femme choisit. Des fois c'est dans le même sens que le dos, des fois c'est le sens opposé, mais on imagine que si elle choisit ce côté, c'est qu'elle s'y sent mieux, sans qu'elle soit contrainte à se mettre à droite ou à gauche. Et on s'aperçoit qu'à peu près, deux tiers des positions à la position latérale correspondent au côté du dos et un tiers correspondant au côté opposé au dos. C'est des résultats qui sont pas très différents dans les modalités de naissance.
Ça vient doucement. J'étais la semaine dernière au collège des anesthésistes réanimateurs en obstétrique sur une table ronde péridurale et mobilité. Et ça avance, en partie grâce à l'équipe de FINDAM d'ailleurs qui avait poussé sur le sujet.
C'est vrai que là, il y a un petit peu plus d'efforts à installer pour l'anesthésiste parce qu'il doit calculer 2-3 paramètres supplémentaires et que le côté un peu flamme de la péridurale nocturne fait que ce n'est pas aussi développé qu'on aimerait que ça le soit. Mais là aussi, c'est une question de temps. Ça se met en place parce qu'il faut avoir quelqu'un qui, d'un coup, il a envie de faire ça, ça lui plaît. Après, il faut qu'il y ait une effet boule de neige. Mais c'est tout à fait possible. Donc, il faut tout à fait avoir.
Ça
coûte cher, il n'y a pas trop le matos. Mais le matos, quand on veut, on l'a.
Oui.
Sont des questions d'orientation.
Au début, je ne sais pas comment la péridurale a été imaginée, mais je trouverais naturel que ça ait été imaginé comme ça. Parce que dans un accouchement, ce n'est pas la même chose que dans une appendicite. On demande à la femme un minimum de participation, même si on ne consent pas. Et pourquoi finalement, c'est péridurale, ce n'est que maintenant qu'on se dit, ah ben oui, ce serait peut-être bien si elles étaient autorégulées par la femme enceinte.
C'est maintenant, mais c'est pas que maintenant. Je veux dire que c'est à 5-6 ans, ça déjà.
Au départ, c'est la technologie. Moi, j'ai accouché il y a 2 ans, il n'y avait pas ça, et c'était en pleine journée.
Ah oui, non, non.
Un
la réflexion. la réflexion sur la naissance qu'on est en train de dire ici, si vous passez ici et que vous n'êtes pas dans le corps, vous dites que l'obstétrique française, c'est génial. Les gens se posent des tas de questions. Si vous allez dans une maternité et vous dites que ce n'est pas la même planète, on n'est pas sur le même climat. Vous apercevez qu'il y a la technologie des péridurales. Si on regarde la littérature scientifique, il y a plein d'arguments pour dire qu'il faut des faibles doses, il faut de la PCEA plutôt que du débit continu, il faut à la demande et il ne faut pas systématiquement. Et puis c'est comme ça que ça se fait, non ? Moins de 20% des naissances sont péridurales, donc cherchez l'erreur. La liberté des positions, sans rentrer dans les détails, tout le monde sait un peu que c'est un truc qui peut être utile et qui ne semblera pas délétère. Pourquoi ça ne se fait pas dans la réalité quotidienne ? Ben là aussi, cherchez l'erreur. Il faut se bouger. Quand je dis bouger, je suis un professionnel qui sait pourquoi. Parce qu'il n'y a rien de plus tranquille que la routine. Vous avez la routine pour 20 ans, vous êtes tranquille pour 20 ans, personne ne va vous emmerder, excusez-moi de le dire. Sauf s'il y a, et c'est là que je vais vous renvoyer l'ascenseur, une demande de la population de dire « ça suffit, faites autrement ». Vous allez au restaurant, il fait une bonne cuisine, mais vous avez steak frites tous les jours. Et ben, si le cuisinier ne se remue pas tout seul, et si les clients sont là, il leur fera toujours steak frites tous les jours. Si un jour, on en a marre, il faut faire plusieurs plats sur la carte, il fera plusieurs plats sur la carte parce qu'il veut garder sa clientèle.
Oui, mais quand vous arrivez dans la maternité, le corps médical est quand même très autoritaire.
On
a
parlé
de tout à l'heure. Il est autoritaire si on se place dans une position de soumission. Aussi, il faut aussi se placer d'une autre manière.
C'est aussi du vieillissement. Enfin, c'est bien qu'on n'est pas toujours engagé à s'exprimer à ce moment-là.
Il ne faut pas attendre qu'on
ait même après. Même quand on s'engage, même quand on veut même votre. Moi, j'ai essayé de négocier lors de mon accouchement, etc. C'est anormal de négocier pendant son accouchement. C'est strictement anormal. Je suis rentrée dans un protocole et c'est pas normal. Donc, voilà. Donc, moi, là, je suis là en tant que parent pour justement, comme on dit, en tant que parent, pour faire bouger les choses.
Ça, c'est le débat de la seconde partie. Hein, aussi. Oui, justement. Oui. Comment faire.
On peut faire autrement, des professionnels. Moi, je ne veux plus entendre le minimum de témoignages de parents qui se sont fait prendre dans un protocole qui est. Je suis en rage parce que c'est voilà, moi j'avais bien commencé mon accouchement et ça s'est terminé par une césarienne parce que ça ne descendait pas, parce que ceci, cela, et que je négociais. Et en plus, au fur et à mesure que je pense à mon histoire, je me dis, mais j'ai négocié que dalle. Il sait où emporter le morceau. Donc, voilà. On va mettre dans ce rapport le conflit, parce que c'est ça qui est important.
Oui, oui.
On doit être accompagné. Et on doit nous proposer des choses. Enfin, c'est
la place en général du citoyen ou du patient dans le système de santé française.
Ouais. C'est tout récent.
C'est d'abord, en plus, comme on est en France, c'est d'abord légal avant d'être pratique. Voilà. Et la distance entre le légal et la réalisation pratique.
On va en parler.
Le problème souvent, c'est de trouver des dignes représentants qui ont un peu des choses à dire pour avoir la place dans un CA d'hôpital ou un truc comme ça. Et bien souvent, vous avez deux personnes tranquilles qui sont là parce que s'ils doivent être là, mais à part ça, ça va plus loin. C'est pas elles qui vont faire bouger le système de santé, qu'il soit naissance ou pas naissance. Donc, le côté dialoguer autour des pratiques, comme on commence à le faire un peu plus en pratique chirurgicale, il y a du chemin à faire, mais on a commencé un jour pour arriver de là.
Alors, je suis 100% d'accord avec vous qui venez de parler. Moi, j'aimerais savoir quelle est la place de la mobilité quand on a d'un côté une perfusion de l'autre côté un monitoring qui est dit obligatoire. C'est illégal de ne pas avoir de monitoring sur les
enfants. Comment ça, illégal ?
Donc, comment être mobile avec deux fils vers le monitoring, un fil vers la poche, qui sont accrochés. On ne peut pas se lever quand on demande à se lever. Il faut attendre une heure avant qu'il y ait un important qui soit installé dans la salle pour qu'on puisse accrocher et au moins se lever. Donc, où est la mobilité là-bas ?
La réponse, elle est de niveau. Il faudrait faire que ce qui est nécessaire de faire, et là, il y a un train considérable à faire. On ne va pas y arriver là. Deuxièmement, quand on a des nécessités d'être perfusé ou d'être enregistré, à supposer qu'elles soient valables, ça ne veut pas dire qu'on doit être immobile parce que les fils sont souples et les fils sont souples. Donc on sait à
service. À partir du moment où la mobilité devenait un truc intéressant et accaparé par tout le monde, elle n'entrait pas obligatoirement en concurrence avec d'autres aspects, peut-être moins évolutifs, qui ne sont pas encore idéaux dans le service. Mais tout le monde vous dit, et c'est pas parce qu'il y a ça qu'on ne peut pas bouger. Donc on peut bouger, alors bien sûr on peut faire un 100 mètres avec la perturbation, mais je veux dire sur la table d'accouchement quand on est à 7 cm et que la dame veut rester allongée comme on l'a dit tout à l'heure, allongée ça ne veut pas dire immobile. Ça veut dire allongée, à bouger, à se tourner, et c'est la femme qui décide et rien d'autre.
Et c'est elle de dire,
éventuellement j'ai un problème avec le tuyau et venez m'aider.
Mais
c'est
non, je ne crois pas forcément aussi long, enfin, c'est pas du tout la même.
Si, mais sa femme, elles ne sont pas exceptionnelles, elles sortaient des écoles comme tout le monde, mais elles ont réussi à se passer parce qu'on a gratté un peu et qu'on a.
Mais je crois qu'en tant que parent, quand on se retrouve perfusé, machin, etc., on se sent immobile.
Oui, bah bien sûr.
Donc, si on n'a pas en face une sage-femme, une équipe, quelqu'un qui est là pour dire, mais vous pouvez bouger, c'est quelques petits mots, c'est pas grand-chose. Donc, moi, je me suis retrouvée, je me souviens, dans la salle, ils m'ont branché, pof, il n'y avait plus personne. Je fais quoi?
Je ne sais pas, je fais ce que je peux. C'est absolument pas proposé, je suis désolée.
Ça dépend de l'équipe.
Et c'est pas forcément...
Allez, chez Monsieur Maria, vous verrez ses propos.
Ça m'intéressait de savoir à part quelles sont les maternités qui sont les plus sensibilisées.
Je voudrais aussi dire quelque chose. Les maternités, en principe, quand vous êtes inscrite, vous y subissez ou vous y participez pour des consultations. Et ça, ce sont des choses qu'il faut poser comme question au cours des consultations. À votre consultant qui ne sera pas là le jour de l'accouchement.
Justement.
Non, mais attendez, ça c'est un autre problème. Mais c'est le système.
Mais moi j'ai demandé, est-ce qu'on pouvait se suspendre, est-ce qu'il y avait des ballons, est-ce qu'il y avait des tas de choses.
Et alors?
Et ben, rien ne m'a... Ben, moi j'étais complètement dans un état indescriptible. Ça a été déclenché. Voilà, donc j'étais dans une salle, il n'y avait pas de noir, il n'y avait rien, il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de sol, il n'y avait rien. C'était un bloc opératoire.
Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que...
C'était faisable dans cette maternité.
Mais c'est vrai
que c'était la salle la moins, adaptée pour. Clairement, ça devait être la salle des accouchements médicalisés. Et la sage-femme n'a pas proposé ça. Donc je suis sûre que dans sa
mais est-ce que ça existait
oui, dans ça existait dans les deux autres salles. C'était au Lila. Pour vous dire qu'il n'y a pas de bonne ça dépend de la personne à qui, sur qui on tombe.
Absolument.
Médecin détermination,
ça va dépendre de la charge de travail, ça va dépendre de sa charge d'émotion aussi à elle.
Oui, mais ça dépend aussi de la charge d'émotion à
elle. Mais absolument, non mais... On est complètement d'accord avec ce que vous dites. Simplement, c'est sûr qu'il n'y aura pas un modèle parfait. Parce que M. Maria décrit Villeneuve-Saint-Georges, d'accord, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, puis un jour, il y aura un manqué. Et pour la personne pour laquelle il y aura un manque, ce sera 100%. Donc il faut le savoir, ça.
Oui, il faut que les sages-femmes le sachent. Et je pense que quand on est dans une maternité où il y a une équipe qui réfléchit à ce genre de choses pour installer dans certaines salles tout ce qu'il faut pour le bien-être d'une femme, je trouve ça aberrant qu'on ne pense pas systématiquement quelles que soient les conditions dans lesquelles...
Vous en avez parlé avec elle après?
Oui, donc j'ai écrit. La sage-femme m'a répondu que tout ce que je racontais, c'était faux. Bravo. Elle a nié ce que je disais. Je ne veux plus qu'elle avait fait son boulot. Je ne veux plus entendre parler de ce genre de sage-femme.
Est-ce que vous alliez au Lila avec une intention particulière ou est-ce que votre réflexion est venue après coup?
Non, je me suis inscrite au Lila. J'ai demandé est-ce qu'il y aura des équipes médicales qui accepteront de me laisser tranquille, accoucher toute seule.
D'accord. Et on vous a répondu
oui. J'ai écrit sur mon dossier accouchant non médicalisé.
On vous a répondu oui?
On m'a répondu oui.
Donc au niveau du contrat,
il y a une arnaque.
Au niveau du contrat, l'arnaque, elle va jusqu'où? Sur mon dossier, j'ai écrit accouchement non médicalisé. Quand je suis arrivée,
d'accord, c'était préalablement.
La sage-femme, au bout de 5 minutes de discussion, j'avais une fissure de la poche des os, elle m'a demandé, vous êtes sûre que c'est bien une fissure parce que je n'ai pas lu votre dossier? des choses comme ça, je peux vous en raconter
d'accord.
À la fin. Je ne suis pas là pour ça. Je veux simplement préciser qu'il faut vraiment, alors, je ne sais pas s'il y a des profs, des sages-femmes,
malheureusement,
ancrer dans la tête que la mobilité, c'est la liberté et c'est la moindre des choses qu'on puisse donner à une femme qui accouche, qui, je le répète, n'est pas forcément dans son état normal. Donc, il faut que ce soit la première chose dite dans un groupe de sages-femmes.
Et quelque part, quand vous vous adressez au Lila, vous avez une certaine attente, et là, vous expliquez bien qu'au niveau du contrat, il y avait quand même un minimum de négociation, puisqu'on vous a dit oui. Mais à la fois, en tant que parent, vous pouvez aussi... Pardon ?
On m'a dit oui à l'inscription.
Oui, d'accord, d'accord. Donc c'était quand même à un niveau préalable, il y avait quand même un minimum de balance. Mais le problème qui se passe, comme vous l'avez souligné là, c'est que c'est une histoire de personne. Beaucoup de gens aujourd'hui se trompent quand ils vont en première intention dans un lieu précis parce qu'il a une certaine couleur, une certaine notoriété. C'est quand même une histoire de personne, comme le répétait tout à l'heure Françoise.
Ouais, mais c'est quand même pas normal qu'une maternité qui s'affiche en tant que les lilas, les diagonales, etc. C'est vrai qu'on entend souvent des témoignages de parents qui vont dire complètement l'inverse.
Bien sûr,
il y a un point très important quand même à retenir quand on parle de liberté de position, c'est ce que ça représente de figer la femme en train d'accoucher sur une table. Parce qu'il y a aussi une question là de pouvoir, et c'est rien de le dire, et donc ça sous-entend après, quand on veut induire des évolutions et des changements, ça sous-entend que les professionnels, par exemple, fassent un travail sur eux-mêmes et sur leurs relations aux autres pour ne pas rentrer dans cette relation de pouvoir. Et c'est toute la problématique avec tout ce qui est, j'allais dire, tout ce qui va être dogmatique dans un sens comme dans l'autre, parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec des gens qui ne veulent pas écouter. C'est-à-dire, quand on est certain de ses convictions, eh ben, on n'a pas envie d'écouter les autres, parce qu'on a l'impression que l'autre, il dit n'importe quoi. Donc ça demande vraiment un grand travail de la part de tout le monde, d'humilité, pour accepter d'entendre les choses, d'en discuter, et accepter qu'il n'y a pas une vérité absolue. Il y a simplement à trouver les meilleures conditions pour que ça se passe. Les gens, les sages-femmes, les médecins dans les maternités, je mettrai pas mes mains à couper, mais quasiment, je suis certain qu'il n'y a pas grand monde qui vous veuille du mal. Non mais je veux dire, c'est évident.
Non, donc, mais ça les veut... conceptions du bien ne sont pas les mêmes.
Non, non, mais attendez, bien ce sûr. Que je veux juste dire, c'est que bien dans sûr. La mesure où personne ne veut de mal aux patientes qui viennent accoucher, etc., effectivement, après, ça va jouer en fonction des personnes, en fonction des moments, en fonction d'un tas de choses. Mais c'est très important de se rendre compte que, un, il est possible que ça change, et deux, comme le disait Bernard tout à l'heure, ça changera grâce aux parents. Parce que nous, les professionnels, je veux dire, moi, je suis bien placé pour savoir, puisque ça fait quand même maintenant 14 ans que je fais du suivi global et que je fais des accouchements dans toutes les positions que la Terre ait pu imaginer. Je veux dire, bon, j'ai laissé mon poste de fonctionnaire pour ça. Donc je vous en reparle un petit peu tout à l'heure. Bon, c'est pas quelque chose de très courant par les temps qui courent. Il n'empêche que c'est faisable. Et moi, j'ai été éduqué comme toutes mes collègues sages-femmes. J'ai fait mes études dans une grosse maternité. Je veux dire, il n'y a pas de... Bon, donc les choses sont possibles. Simplement, il faut effectivement trouver l'énergie. Il faut mobiliser. Il faut effectivement réagir. Ça sera long, il faudra peut-être des générations pour que ça change.
Non, peut-être.
Si, oui. Fondamentalement, dans la mentalité des gens, si.
Attends, ça va vite. Mais
est-ce qu'il n'est pas possible, dans le cas de cette jeune maman, comme dans le cas de bien d'autres, c'est-à-dire que là, elle a ressenti quelque chose pour elle qui est vraiment très fort. Cette soignante, sage-femme, etc., qui elle considère qu'elle n'a pas fait son boulot au moment où elle a demandé, alors qu'elle s'attendait à un service. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des médiations des fois entre ces personnes-là, de façon à ce qu'on s'explique, parce qu'il y a une personne qui a souffert, qui a mal vécu quelque chose, un soignant qui dit moi j'ai vu mon travail, ce qui est peut-être vrai à ce moment-là, elle a peut-être fait effectivement son boulot, mais que le parent lui comprenne. Quel a été son travail à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle a fait pour l'aider, elle? Parce que le parent, moi, qui est mon cas, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc forcément, on est plein de colère
Et on se dit, là, ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas été à mon écoute.
Ah ben, moi, je sais comment, qu'est-ce que c'est son travail. Elle a dit, elle a dit, je l'ai fait ce que, qu'il fallait faire et ce qu'on aurait fait dans toutes les maternités.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suivie, un protocole. Une réponse, c'est la réponse. Comme ça, on s'est arrangé par mode de faire comme ça. Une réponse, on s'est arrangé par mode de faire comme ça. C'est écrit, il y a un protocole. Une réponse, une réponse en tant que chef de service, qui a été expliqué la procédure règlementaire. Quand il y a une plainte d'une, d'un patient auprès de la direction d'un établissement public ou privé, il doit être reçu par la direction. Qui a mis en place, c'est obligatoire depuis la loi du 4 mars, la loi
2002,
le droit des patients, une commission de conciliation qui est faite d'un certain nombre de personnages nommés pour par la direction, qui ont l'obligation de recevoir et d'écouter toutes les plaintes, et d'en référer aux acteurs responsables, la sage-femme, le médecin, l'anesthésiste qui est du côté, pour en trouver une réponse. C'est une structure qui est faite pour défendre les patients face à des imperfections qu'elles sollicitent. Et c'est à l'obligation de la direction de mettre en place cette affaire. Dans l'hôpital je suis, qui n'est pas exemplaire à ce sujet, il y a ce genre de structure, et quand on reçoit des plaintes, au bout de l'année, tous les ans il y a la synthèse, on vous dit, monsieur Maria, vous n'avez pas répondu à tout, alors vous n'avez pas envoyé les trucs ou les papiers qu'il faut. Enfin. Donc il y a une espèce d'obligation réglementaire qui vous protège. Et on ne peut pas se parer, quand on est dans ce genre de truc, de dire, j'ai fait ce que je dois faire. On dit, oh, mais c'est quoi ce que vous devez faire? Parce qu'une sage-femme, c'est qu'un professionnel médical qui a aussi le devoir d'évoluer, de suivre une formation professionnelle et d'appliquer en 2005 des pratiques de 2005 et pas les pratiques de 1970.
Mais c'est même pas des pratiques, c'est un état d'être. Quand une sage-femme arrive, fait une analyse, cherche la poche des os, sans ne rien dire, sans rien prévenir, sans dire qu'est-ce qui peut arriver, sans vérifier dans quelle position il est, on avait fait ça. Et que quand on lui demande qu'est-ce que vous allez faire, elle ne répond rien, qu'elle perche la porte. C'est pas une conciliation comme vous dites. C'est cette personne-là qui n'est pas dans un état d'être que je qualifierais d'humain.
C'est peut-être assez responsable.
Ou qui est complètement débordée dans son service.
Je voudrais préciser quelque chose sur ce qu'a dit le professeur Maria. Les fameuses commissions qui s'appellent les commissions de relations aux usagers, instituées par la loi du 4 mars 2002, les décrets viennent juste de sortir, monsieur Maria. Donc ça va porter ses fruits dans quelques semaines, quelques mois. Donc effectivement, depuis 3 ans, il n'y avait pratiquement plus rien dans certains établissements. Restaient les anciennes commissions de conciliation, qui fonctionnait avec généralement un notable sur le bord de la retraite, et ça se résumait à cela. Il est clair que ça va changer la donne, parce qu'il va y avoir des représentants d'usagers dans les CRU, dans les commissions de relation aux usagers, et il est clair que les associations qui s'occupent de périnatalité auront des postes. On est en train de placer des gens en région parisienne, sachez-le, et on saura ce qui se passe. On aidera bien sûr cette structure à régler les problèmes et les contentieux, mais aussi, à l'extérieur, on saura ce qui se passe. Voilà.
Mmh. Ouais. Est-ce qu'on pourrait peut-être boire un petit coup et puis continuer justement un peu sur ce terrain-là? On a des choses à vous montrer, à vous dire aussi, qui vont peut-être alimenter tout ce débat. Je pense. Hein ? Je vous propose.